Les pieds sur terre, Sonia Kronlund
et Delphine Seltel.
Des histoires, des enquêtes, des reportages.
Parce que c'est comme ça que les choses arrivent.
L'histoire commence en mars 2019 à Saint-Denis-de-la-Réunion. Steven, un père de famille qui travaille dans le commerce, rencontre une mère très inquiète. Elle lui raconte que sa fille de 12 ans est sollicitée sur les réseaux sociaux par un homme qui lui envoie des messages pornographiques. Steven décide d'agir en s'inspirant des collectifs de citoyens anglo-saxons qui, au Canada ou au Royaume-Uni, traquent les pédophiles sur Internet. Avec d'autres parents, Steven réunit alors, lui aussi, une équipe d'internautes engagés contre la pédocriminalité en ligne, la Team Moore, Moore en référence au réalisateur engagé Michael Moore. Tout de suite, comme ça, au premier abord, on peut se demander quel est le lien avec des films comme Bowling for Columbine ou bien Fahrenheit 9/11, mais dans les deux cas, d'une certaine manière, il s'agit de prendre au piège des individus dangereux pour la collectivité, les dénoncer avec des images, les démasquer aux yeux de tous, quitte à utiliser une forme de mauvaise foi. La Team Moore rassemble aujourd'hui plusieurs dizaines de membres actifs. En France, en Belgique ou en Suisse, ils sont ingénieurs, secrétaires, ouvriers, informaticiens, avocates, hommes ou femmes de ménage. Et ils sont déjà à l'origine de 26 arrestations et de 11 condamnations. Des résultats concrets et quelque peu embarrassants pour les institutions chargées de lutter contre la pédocriminalité sur Internet. Comment les enquêteurs judiciaires sont-ils censés composer avec ces citoyens ordinaires qui s'improvisent justiciers, défenseurs de l'enfance en danger? Comment refuser qu'ils fassent le travail d'unités de service public débordées et en manque de moyens, bénévolement en plus, mais avec leurs propres méthodes et quelques failles juridiques ou éthiques au passage? Aujourd'hui dans Les Pieds sur Terre, une membre de la Team Moore, chasseuse de pédophiles en région Rhône-Alpes, raconte sa technique, la traque, les vies multiples en ligne, les questions que cela pose à elle et à nous tous. C'est jusqu'à 14h, un reportage de Noémie Landreau, éloigner les enfants du poste, car même si cette histoire les concerne au premier chef, elle peut aussi choquer les plus jeunes.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Alors là, voyez, il y a mon profil d'enfant, donc c'est une photo de mon visage actuel que j'ai modifié avec un filtre qui permet d'enlever 20 ans. Et comme ça, je n'enfreins pas l'illégalité sur le droit à l'image et l'usurpation d'identité puisque j'utilise mes propres photos et mon propre visage. Donc là, dans la présentation de mon profil, donc je cite mon nom, mon prénom, je dis que je suis en classe de quatrième, parce que là, je viens de rentrer en quatrième, mais lorsque j'ai créé ce compte-là, donc j'étais en classe précédente, donc j'étais en cinquième, donc je suis au collège, je dis que je vis sur Lyon, et lorsqu'on voit mes informations personnelles, on voit du coup ma date de naissance et on voit tout de suite que j'ai 13 ans. Donc la personne qui consulte mon compte sait pertinemment que je suis une enfant mineure. Et donc je fais ce que n'importe quel adolescent fait sur un réseau social. Je partage les publications de mes chanteurs, de ce que j'aime faire, de mes passions. J'adore mon chat, donc je mets plein de photos de mon chat. Et puis, quand j'ai un week-end de prévu, voilà, je dis que tel week-end, bah là, par exemple, vous voyez, là, je suis avec ma cousine, qui est en réalité un ami, hein, donc on a utilisé aussi un filtre, voilà, pour créer l'illusion. Et puis, voilà, je fais vivre cet enfant. Et ça fonctionne dans le sens où je suis alpaguée par des dizaines d'hommes. Je suis Neil Amour, je suis une mère de famille de 3 enfants, je vis sur la région lyonnaise, je suis femme de ménage à mon compte depuis 8 ans maintenant. Euh, Alors, disons que moi, j'étais vraiment écœurée de voir en permanence dans la presse des enfants piégés par des prédateurs, des enfants victimes, des familles de victimes qui sont complètement impuissantes face à notre système judiciaire, voire toujours des criminels en liberté, avec peu de sursis, enfin vraiment... Quelque chose qui pour moi n'est pas compréhensible dans ce pays en fait, hein. Et puis du coup à force de recherche, je suis tombée donc sur la page Facebook détenue par Stephen Moore, qui avait déjà lui commencé à mettre en place un plan et une manière d'agir, parce qu'il avait déjà créé donc un profil d'enfant, Alicia. Et du coup, voilà, moi je l'ai rejoint, on a commencé à travailler ensemble, il m'a expliqué comment mettre un enfant en ligne, comment le créer, voilà, puis comment créer l'illusion de l'enfant, faire vivre l'enfant, et tout en restant donc dans un cadre légal. Et on a effectivement été effarés par notre constat. Voir qu'en quelques heures, des dizaines d'hommes entrent en contact avec des enfants avec une facilité juste incroyable. Et de là, nous avons créé la Team Moore, où de nombreuses personnes nous ont rejoints pour créer donc un collectif citoyen, pour créer un mouvement, lever une armée en fait, hein, sur tous les réseaux sociaux. Et le but, en fait, c'est de mettre en place sur toutes les plateformes du net des centaines et des centaines de milliers d'anges gardiens, finalement, parce que c'est un petit peu ce qu'on fait, hein, donc mettre une barrière entre le prédateur et l'enfant. Jusqu'à décembre 2019, où là, on a mis en place un serveur sur lequel des centaines de personnes sont venues. On leur a donné les trois règles. Utiliser ses propres photos pour pas... être condamné d'usurper une identité. Donc, on utilise nos propres photos. Le deuxième point, c'est l'incitation. Ne pas inciter le prédateur. Nous, on ne l'incite pas, au contraire, on le freine. Sinon, on est condamné. Et le troisième point, c'est respecter l'intimité de cet individu. Ne pas exposer son identité ainsi que les conversations sur Internet ou en public. C'est strictement interdit en France. Quand je crée un profil d'enfant, en l'espace de 24 heures, j'ai déjà plein de demandes d'amis, des hommes adultes, qui viennent converser avec moi. Et très vite, ils vont demander des photos d'enfants. Hein. Là, vous voyez par exemple celui-ci, donc il m'a invité. Donc c'est un pur hasard. Il le dit lui-même et hop, tout de suite, il voudrait avoir une photo de moi. Il me trouve très très mignonne, etc., etc. Et au bout de quelques temps, donc autant vous allez avoir des prédateurs qui vont être plus dans le côté ange gardien pour manipuler l'enfant, je suis ton grand frère, je suis là pour t'aider, etc. Ou d'autres qui vont être très pervers, ou tout de suite au bout de trois lignes, ils vont parler de sexualité. Mais à la fin, leurs envies, elles sont communes. C'est avoir des photos de l'enfant nu, c'est le conduire à la débauche. Beaucoup envoient des médias porno, donnent des cours d'éducation sexuelle à l'enfant. Beaucoup envoient des photos de leur sexe, demandent à l'enfant de toucher ce sexe, d'imiter une fellation. Ça va très très loin. Alors, une fois que le prédateur entre en contact avec l'enfant et que les conversations commencent à se dérouler, nous, tout de suite, on fait des captures d'écran de toute la conversation, du début à la fin. Ce sont des preuves qu'on amasse au fur et à mesure. Et en même temps, on enquête sur cette personne. On découvre son âge, sa date de naissance, son travail, là où il vit, sa famille, ses amis, et on en fait un dossier. Et une fois que nous avons suffisamment d'éléments pour pouvoir le livrer à la justice, comme par exemple la corruption de mineurs, le demande de photos, la demande de rendez-vous jusqu'au rendez-vous physique. Puisque tout cela relève de l'article 227.22.1, la corruption de mineurs par voie numérique, un mineur de moins de 15 ans ou une personne se présentant comme telle est condamnable en France à 2 ans de prison et à 5 ans si les échanges numériques sont suivis d'un rendez-vous physique. Alors, tac, donc c'est celui-ci. Alors, le dossier clin. Alors là, on est en août 2019. C'est une personne de notre équipe qui a créé ce profil de cet enfant. Donc c'est une enfant virtuelle qui vit à Genève, une petite Suisse qui a 12 ans. Et elle reçoit une demande d'amis d'un Bordelais qui a 29 ans. On est le 4 août exactement, 48 heures plus tard, il lui envoie son sexe en photo. Très vite, il lui demande des photos d'elle nue. Elle a beau expliquer qu'elle a que 12 ans, qu'elle peut pas faire ça, qu'elle est trop jeune, qu'elle veut pas. Elle lui parle de sa grand-mère, elle lui parle de ses amis, elle lui parle de la rentrée scolaire. Et lui, tous les jours, c'est « Est-ce que tu veux voir ma queue ? Est-ce que tu voudrais goûter mon sperme ?» etc., etc. Et c'est comme ça pendant plusieurs semaines. De là, il a fallu qu'on crée l'illusion de la présence physique de l'enfant. L'enfant habite à Genève, lui à Bordeaux, il y a 700 km. On met en place un faux mariage. Sur le profil Facebook de l'enfant, elle va dire publiquement qu'elle se rend aux alentours de Bordeaux le week-end du 15 septembre parce qu'elle est demoiselle d'honneur au mariage de sa marraine. Elle doit choisir des robes, donc il y a tout un préparatif de mariage, et de là, ça marche. Là, tout de suite, il la contacte en privé. « Ah, tu viens à Bordeaux, c'est fantastique. Moi, je veux te voir. Est-ce que tu crois que tu pourras sortir ?» Donc voilà, l'enfant a prévu d'être 3 jours sur place. Et le dimanche, l'après-midi, sa mère a dit qu'elle pouvait faire un tour, voilà, se balader, mais pas trop loin. Donc de là, il a donné un rendez-vous sur la place de la Victoire à 14h30. Alors ce qui est intéressant, c'est que 2 heures avant le rendez-vous, il a demandé à l'enfant d'aller chercher des préservatifs. Sauf que ce qu'il lui ne sait pas encore, c'est qu'il va en fait avoir rendez-vous avec moi. Avant lui, j'avais déjà fait des confrontations où je m'étais présentée, voilà, en tant que femme, en tant que Neil Amour. Et là, j'ai voulu jouer différemment. J'ai voulu prendre la place de l'enfant, mais jusqu'au bout, jusqu'à me déguiser en petite fille. Parce que pour être sûre que quand lui verra cette petite fille dans son champ de vision, il va venir, il va m'aborder. Donc, préalablement, il m'avait demandé comment je serais habillée. Donc voilà, je lui avais dit que j'aurais une jupe, des baskets grises, un petit sac rose, une casquette. Et donc, bah, moi, j'ai pris les vêtements de ma fille pour créer cette illusion. Donc, j'ai mis une perruque, je me suis habillée, comme je l'avais annoncé, comme une adolescente. Et je me suis rendue au rendez-vous. Il faisait très chaud. Avec la perruque, j'avais très très chaud. J'avoue que j'étais quand même un petit peu dans un état de stress. Hein. Déjà de se dire, est-ce qu'il va venir au rendez-vous ? Parce qu'il y en a aussi, hein, c'est vraiment un fantasme. Et jusqu'à la dernière minute, bon, ils se sentent borderline, ils ne viennent pas. Puis bon, voilà, moi j'avais Steven à 10 000 km de là, qui était au téléphone avec moi. Voilà, qui essayait de me rassurer, de me détendre. Voilà, donc j'avais mes bodyguards qui était posté, voilà, t'inquiète pas. Et j'avais la tête baissée pour pas qu'ils voient que j'ai quand même un visage de femme. Et là, je vois des rangers. Je vois qu'il est là. Donc du coup, je commence à me lever. Et là, il vient vers moi pour m'embrasser, pour me dire bonjour. Et là, je commence à l'appeler par son nom. Donc il me dit que c'est bien lui. Et puis là, je fais comprendre que c'est pas l'enfant, quoi. Je l'avais en face de moi et finalement, c'est comme si j'avais le pouvoir de couper court à son fantasme, à ce qu'il avait prévu de faire, comme si j'avais empêché finalement que ce soit une vraie fillette, hein, Il y avait une petite part de moi, voilà, qui était fière de moi. Voilà, je me suis dit, bon, bah voilà, j'ai réussi finalement à le bloquer, à l'empêcher d'aller commettre ce qu'il avait prévu de faire. Donc, moi, je suis là avec mon dossier, avec tout ce que j'avais imprimé, toutes les captures d'écran. Et donc, je lui dis, c'est votre profil Facebook. Il me dit oui. Je lui dis, vous parlez avec elle depuis le 4 août. Il me dit oui. Je lui dis, le 6 août, vous lui montrez votre sexe. Il me dit oui. Puis tout de suite, il me dit, mais il n'y a rien de pédophile là-dedans. C'était prévu de les laisser partir parce que précédemment, on a eu pas mal de complications avec les forces de l'ordre qui ne nous ont pas suivis ou des procureurs, enfin, ou un procureur qui a refusé d'instruire alors qu'il y avait matière à instruire. Et du coup, voilà, nous, on a demandé de l'aide à l'association Innocence en danger. Donc, voilà, c'est une association qui existe depuis 20 ans dans la protection de l'enfance et qui nous ont aidés à amener notre dossier auprès du procureur du Bordeaux. De là, il a décidé donc l'arrestation de ce prédateur sexuel. Et l'enquête a permis de mettre à jour une victime réelle, une mineure de 15 ans. Donc là, pour le coup, en fait, on avait affaire à un récidiviste. Et la peine encourue est, pour le coup, 7 ans de prison. Sauf que la semaine dernière, je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de regarder son profil Facebook, voir s'il était encore actif. Et à ma grande stupeur, le profil Facebook qu'il utilisait pour converser avec des mineurs est toujours actif. Il publie des photos de lui, ses vacances. Et donc là, j'ai contacté le journaliste de Bordeaux. Et je lui ai dit, vous pouvez m'expliquer ce qui se passe? Il est censé être en prison. Et donc j'ai appris qu'un an après, il est toujours en attente de son procès. Aujourd'hui, on nous reproche de faire le travail de personnes qui sont habilitées et faire un travail qui n'est pas de notre ressort en tant que citoyen lambda. Sauf que maintenant, il faut admettre de constater qu'on a quand même des résultats. Pour notre seule équipe, en un an et demi, on est à 25 arrestations. Il y a eu un réseau démantelé au Canada. Il y a plusieurs procès qui se sont ouverts, il y a des condamnations. Dire aujourd'hui que ce que nous faisons est irrecevable, est illégal, c'est complètement faux. Il n'y a aucun texte de loi qui dit que nous ne pouvons pas le faire. Au contraire, la législation aujourd'hui, finalement, nous permet de le faire. Les cyberpatrouilleurs qui font ce genre d'activité, donc se faire passer pour un mineur sur les réseaux sociaux, ils sont un nombre, j'ai même pas le nombre exact parce qu'ils changent tout le temps. Il y a un an, ils étaient 20, maintenant ils sont 100, demain ils vont être 200. Concrètement, quand on voit que nous, rien que le fait de mettre un enfant virtuel, on peut parler avec une vingtaine de pédocriminels en même temps, il est clair que les moyens ne sont pas suffisants, qu'il n'y a pas assez de personnes pour le faire et que nous, ce qu'on propose, c'est une aide finalement, car c'est pas une justice qu'on fait. Puisque les dossiers, nous les remettons à la justice. Nous, on est là pour aider la justice et pour protéger les enfants. Et si moi, je ne le fais pas, qui le fait? Encore une fois, moi, je préfère que ce soit à moi qui parle, je préfère que ce soit moi qui vois des photos de son sexe, je préfère que ce soit moi qui le vois en train de se masturber, qu'un enfant lambda qui a rien demandé, qui a juste envie d'être sur les réseaux sociaux parce que bah voilà, la réalité elle est là. En 2020, les ados, eh ben ils vont sur les réseaux sociaux. Donc évidemment qu'il va y avoir un devoir de prévention de la part des parents, etc. Mais d'un autre côté, la vérité, elle est là. Aujourd'hui, un enfant, il va sur les réseaux sociaux, il va jouer en ligne et les prédateurs sont là où il y a les enfants. Et il se cache derrière des faux enfants aussi, donc c'est très dangereux. Quand j'ai commencé à m'intéresser plus profondément dans tous les reportages, donc liés à la pédocriminalité, etc., j'avais quelques souvenirs d'avoir été attouchée, mais ça restait vague, c'était complètement anodin en fait pour moi. Tous ces souvenirs d'attouchement sont venus au fur et à mesure de mon combat avec la Timor. J'avais des vagues souvenirs, j'en avais, mais vraiment que j'avais mis de côté. Tout est revenu à force de parler avec des victimes, comme si mon cerveau m'avait dit bon, ça on le met de côté, maintenant tu fais autre chose. Et du coup, c'est revenu et j'ai pu mettre des mots MOTS sur ces mots-là finalement qui étaient enfouis et ouais, tout simplement. Bah, c'était un ami de la famille, comme souvent. Et puis on dit rien, parce qu'on n'a pas le droit de parler. Et donc, et puis on a honte aussi. On a honte et même si on n'a pas dit non, ça ne veut pas dire qu'on a dit oui. Et il le faisait quand même. Et je savais très bien que je pouvais rien dire. Donc je disais rien. Et puis tous les soirs, il venait, et puis tous les soirs, il me touchait, et je me laissais faire. Mais ça veut pas dire que je suis consentante, bien évidemment que non. Il me dégoûtait. J'avais 11 ans. Ça a duré plusieurs mois. Et puis, ça reste à bout, on peut pas le dire, on doit rien dire. Donc j'en avais parlé à mes grands-parents, qui, eux, m'écoutaient et me protégeaient. Et puis, bon, bah, de fil en aiguille, les langues se sont déliées. Et au bout de quelques mois, il a arrêté. Mais c'est quelque chose qui ne se dit pas. Et en fait, c'est lui qu'on protégeait, finalement. C'est lui qu'on protégeait. Et aujourd'hui, je suis victime, oui. Mais encore une fois, on n'est pas obligé de vivre cela ou d'être touché de près ou de loin par ça pour agir et pour lutter dans cette cause. Entre parler avec ces prédateurs, plus gérer l'équipe, former les gens, monter les dossiers, parler avec les médias et parler avec les autorités. Alors on va dire que je passe entre 40 et 50 heures par semaine à faire tout ça. Le plus long, ça va être de parler avec ces hommes. Là, on va dire en moyenne, j'en parle avec 4-5 individus différents, donc il faut maintenir un rythme, il faut maintenir aussi un discours véritable, il faut pas se tromper, parce que voilà, je suis en même temps Neil Amour, je suis en même temps mère de famille, je suis en même temps femme de ménage, et je suis aussi cette petite fille de 13 ans, donc c'est beaucoup de rôles finalement, à jouer en même temps. Et donc voilà, donc oui, évidemment, ça a des répercussions sur une vie de famille. Mon entourage ne comprend pas, ne l'accepte pas, mais en même temps, je ne lui demande pas de comprendre. Parce que je sais que ce que je fais est bien. Et mes enfants, c'est les petits sacrifiés de tout ça. On va dire que les 6 premiers mois, je voyais moins mes enfants et je m'en occupais moins parce que j'étais tout le temps dessus, en fait. Donc, aujourd'hui, voilà, j'arrive un petit peu à déléguer et puis mes enfants le comprennent aussi, même s'ils sont frustrés, c'est normal. Et ils m'aident, surtout la grande qui est adolescente. Elle me donne des cours de jeunes, hein, clairement. Hein. Puis elle m'aide finalement à interpréter mon rôle à la perfection. Donc avec un langage de jeune, une attitude de jeune. Et donc voilà, donc oui, évidemment, ça a des répercussions sur ma vie de famille, mais aussi professionnelle. C'est que le fait d'être à mon compte et de travailler comme je veux, ben disons que moi j'ai complètement réduit mon activité par deux, j'ai divisé mes heures par deux pour pouvoir travailler au sein de l'Intime Mour, donc une perte financière considérable, donc un salaire divisé par deux, mais je ne peux pas arrêter ce combat parce qu'il y a des personnes qui comptent sur nous et c'est comme si finalement on était prisonnier de notre création parce que tout est allé très très vite. Et tous les jours, il y a des dizaines de personnes qui nous demandent comment on fait, ou alors aidez-moi, ou alors mon enfant est victime, ou alors je vous en prie. Et on ne peut pas arrêter. Non seulement je ne le veux pas, mais on ne peut pas.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, un reportage de Noémie Landreau réalisé par Cécile Lafont. Merci à Neila et à Valérie Moreau. Notre attachée de production, c'est Mélissa Foust et notre stagiaire, François Bréus. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, notre page Facebook, Instagram et Twitter, sur le site des Pieds sur Terre ou encore sur l'application Radio France.